Donc bonjour à tous, on va vous parler, on va changer un petit peu de sujet en parlant d'opérations, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de l'autre côté du DevOps. On a parlé du Dev, on va parler de Ops, et avec Antoine, on va passer une demi-heure sur ce sujet. Donc d'abord Antoine, deux mots sur toi.
Alors je me présente rapidement, donc moi je suis Antoine Durand, consultant ITSM. J'ai choisi comme phrase d'introduction « La transformation digitale est un enjeu business avant d'être un enjeu technique ». Je pense qu'évidemment, il faut savoir se transformer pour se tenir up to date et continuer ou devenir compétitif. Mais que lors de cette transformation digitale, les principaux problèmes que vous risquez de rencontrer sont plutôt d'ordre organisationnel et stratégique que technique. Aujourd'hui, on a accès à des plateformes et à des technologies qui nous permettent de résoudre à peu près tout. Enfin, encore faut-il bien s'équiper. Mais à côté de ça, pour moi, le vrai enjeu est réellement business.
Merci Antoine. Donc Antoine, est, en tant que consultant, a une grande expérience de conseil dans les environnements, dans les projets de type mise en place de démarches DevOps, ITSM,
exactement,
etc.
Exactement, Pascal. Donc, je suis consultant agile et DevOps, pour être précis. Voilà.
Donc, et moi-même, on m'a demandé de faire cet exercice assez saugrenu de mettre une citation à côté de ma photo. Et donc, j'ai cherché un petit peu dans les citations liées à DevOps et j'ai trouvé celle-ci qui me convient parfaitement. C'est, en gros en français, c'est être capable de supprimer des tâches d'un système est beaucoup plus important qu'être capable d'en ajouter. Je trouve que ça va assez bien avec les principes que je promets en général. Et c'est tiré du Phoenix Project, donc un des textes fondateurs de DevOps, de Gene Kim. Donc c'est pas mal approprié. Donc moi je suis en fait architecte d'infrastructure chez DX, chez Microsoft France, autrement dit un évangéliste dans le vocabulaire interne chez Microsoft. Et vous pouvez me retrouver également sur Twitter et toutes ces sortes de choses. Donc on va avoir trois parties avec Antoine. Antoine va commencer sur en partant du changement, de la transformation du rôle des ops dans l'entreprise quand on met en place une organisation de type DevOps, avec un principe DevOps. L'idée étant qu'on va s'attacher dans cette partie clé de confiance à essayer de vous dégager les aspects qu'il va falloir creuser avant la mise en place d'une démarche DevOps, de façon à donner la confiance aux ops vis-à-vis de cette nouvelle démarche. En deuxième lieu, je vous présenterai des considérations plus techniques sur l'infrastructure et le socle technologique, donc quelle confiance les ops pourront avoir dans leur infrastructure. Et puis Antoine terminera sur un point très particulier, très important du DevOps, c'est la place des tests automatisés dans la stratégie de build et de release dans une démarche DevOps. Donc Antoine, je te laisse la parole.
Donc je vais revenir sur la définition DevOps qui vous a déjà été présentée ce matin, dans laquelle on dit que DevOps est une démarche de collaboration agile entre les études, donc les devs, la production, les ops et les métiers business, sur l'ensemble du cycle de vie du service, depuis le design jusqu'au support en production. On a dit aussi que nos groupes produits le pratiquent depuis assez longtemps, notamment sur Windows, Office, Visual Studio, et qu'on est donc aussi performant que d'autres grands acteurs comme Amazon, Google ou Facebook. Par contre, à la différence d'eux, on a dû se transformer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant ce slide, dans un premier temps, on explique qu'on est bien dans une démarche de DevOps qui est for business. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Et dans le second bloc, on voit aussi que Microsoft, contrairement à d'autres acteurs qui sont nés dans DevOps ou dans l'hyper-agilité, je pense particulièrement à des entreprises comme Netflix, il y a une vraie expérience de la transformation. C'est une transformation qui a pu prendre du temps, le chemin a parfois été semé un petit peu d'embûches. Il y a eu des réussites, des échecs, donc ce n'est pas le thème de la présentation d'aujourd'hui. Mais je vous invite à regarder une vidéo de Bernard Ourgolian qui a été filmée l'année dernière au DevOps Day 2015, dans lequel il explique un peu plus en détail comment s'est passée cette transformation pour le groupe produit Visual Studio. Voilà. Donc quand on a dit ça, c'est bien. Moi, j'aimerais bien aussi essayer de vous présenter DevOps sur un autre aspect. J'aime bien l'idée de matérialiser DevOps sous forme de cette fameuse boucle qui est en forme de signe infini. Je trouve que ça montre assez bien la démarche de collaboration entre les tâches des développeurs qui sont plutôt en bleu et les tâches des opérations qui sont plutôt en jaune. Alors on voit aussi sur le milieu du schéma qu'on a des tâches qui sont un petit peu bicolores, où on va avoir une collaboration forte en fait, entre les deux équipes, afin de permettre cette accélération. Je me demande aussi si finalement on ne pourrait pas résumer le but de DevOps à la construction et la maîtrise de cette boucle et de chercher par tous les moyens, que ce soit des moyens techniques ou méthodologiques, à accélérer pour finalement atteindre l'objectif final du DevOps qui est de délivrer de la valeur plus rapidement. Je voudrais maintenant faire la peau à quelques idées reçues sur DevOps et sur le rôle des Ops au sein d'une entreprise qui fonctionne en mode DevOps. Donc quelque chose qu'on entend parfois, c'est DevOps égale no Ops. Alors quand on parle d'une entreprise no Ops, ça signifie qu'il n'y a plus du tout d'opérationnel. Donc c'est le nom que certaines entreprises se donnent parfois. Ils proclament qu'ils sont soit full cloud, soit full web et qu'a priori, ils n'ont plus du tout besoin des développeurs. Donc ça existe peut-être dans certaines organisations, mais ce ne sont pas les plus répandus. Et c'est un peu la même chose pour une deuxième idée reçue qu'on entend parfois, de dire DevOps, c'est simplement la fusion des devs et des ops. Alors moi, quand j'entends ça, j'ai un petit peu peur. Je me demande, mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de la fusion des équipes, de la fusion des rôles ? Moi, en tant que directeur informatique, je pourrais très bien décider demain de fusionner mes équipes de dev et d'ops, et de les appeler DevOps, pourquoi pas, je les mets sur le même plateau, etc. En revanche, fusionner les rôles, c'est une autre question. Nous, on pense que aller vers une fusion complète des rôles, on va vers quelque chose qui est au final risqué et potentiellement très chaotique. Donc en fait, dans les deux cas, que ce soit NoOps ou Ops, les activités Ops continuent d'exister. Il y a toujours des activités de mise en production et de gestion des opérations. DevOps n'encourage pas à l'extinction des équipes Ops, mais plutôt à leur transformation pour mettre à disposition leur capacité à dessiner des process et à les automatiser, à diminuer les tâches répétitives qui sont à faible valeur ajoutée et qui sont coûteuses en temps. Donc, je vais vous présenter sur le slide suivant une illustration qui montre qu'il existe une multitude de types d'organisations de type DevOps. Donc c'est une slide que j'ai empruntée à quelqu'un qui s'appelle Matthew Skelton, qui a fait un blog assez intéressant sur les différentes topologies qu'on pouvait trouver dans le monde DevOps. Donc lui, il présente sur différents schémas les topologies qu'il a pu recenser par ses expériences. Donc on retrouve sur ces schémas les devs qui sont ici en jaune, les ops qui sont en bleu. On a aussi parfois en vert des équipes dédiées DevOps, pas tout le temps. Et on peut aussi parfois trouver en rouge des équipes spécialisées qui sont en fait facilitatrices de la mise en place de la démarche. Donc comme on peut le voir, chaque organisation, chaque entreprise a sa propre organisation. Et il est nécessaire pour chacun en fait d'aller regarder parmi ces modèles quel serait le plus approprié, potentiellement de s'en inspirer, de le customiser pour en faire quelque chose qui est approprié à votre organisation. Donc c'est une étape qui peut s'avérer parfois un petit peu complexe et qui nécessite selon nous une étude préalable pour y aller de manière sereine. Donc je vais maintenant prendre comme exemple une organisation DevOps qui est pratiquée par le groupe produit Visual Studio. On a un type d'organisation en feature, où en fait on a cherché à casser le silotage classique dev, ops, qualité, programme manager, pour créer ce qu'on appelle une feature team. Donc j'attire votre attention que sur la taille de la feature team, on essaye en général de ne pas dépasser une dizaine de personnes. Une feature team avec 30 personnes dedans ne fonctionnera pas. Si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il faut alors découper pour des features qui sont plus petites et rester sur cette taille relativement humaine de entre 5 et 10 personnes. C'est la recommandation. Donc on est en fait dans une organisation où on est venu piocher une ou plusieurs ressources spécialisées de chaque silo. On leur donne des objectifs qui sont communs, comme Antoine l'expliquait tout à l'heure, cette équipe est fortement responsabilisée, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur la feature en question, le développeur sera potentiellement réveillé, comme il expliquait, à 4h du matin. Ça arrivera une fois, mais pas deux, parce qu'au bout d'un moment, l'équipe ne va plus être d'accord pour cautionner ça. Et vraiment, le fait de donner des objectifs communs à cette équipe change complètement la donne. Je vous ai maintenant fait un petit schéma pour illustrer tout ça. Donc là, je me projette un petit peu une vingtaine d'années en arrière, à l'époque où pour réaliser un logiciel informatique, je faisais appel à un informaticien qui avait un petit peu tous les casquettes. Il était capable autant de faire les spécifications, de coder, de tester et de déployer en production. J'avance un petit peu maintenant dans le temps. Les méthodologies ont évolué. On a l'apparition de l'agilité. Les frameworks type ITIL sont arrivés aussi dans la place. J'ai changé mon organisation en conséquence. J'ai commencé à monter des équipes spécialisées. Donc, je vais avoir des gens qui sont dédiés, par exemple, à faire de l'analyse business. D'autres personnes qui seront dédiées au code, au testing, etc. J'ai une organisation qui est de type silo, des objectifs qui sont propres à l'équipe. Et une collaboration qui peut s'avérer assez variable en fonction du climat et de l'entente de chacun. Et donc pour terminer, je vais passer maintenant sur une approche de type feature team, où là j'utilise des méthodologies de type moderne, des outils qui sont aussi ultra modernes, qui vont me permettre d'automatiser au maximum mon processus. Et je vais vraiment mettre le focus sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ça va être mon processus de bout en bout, cette fameuse boucle infinie sur laquelle je cherche à accélérer. Et je vais m'organiser autour, en mettant à disposition les équipes et l'outillage dont je vais avoir besoin pour permettre cette accélération. Donc j'ai une organisation de type feature team, avec des équipes mixtes et des ressources qui ont été piquées dans chacune des spécialités, des objectifs communs et une collaboration qui est, par la force des choses, forte. Et c'est ça qu'on cherche avec tout ce qu'on appelle culture DevOps, selon nous. Je voudrais maintenant parler rapidement d'une autre idée reçue qu'on entend parfois, qui est de dire DevOps et ITIL sont incompatibles. Alors, je vous ai mis un schéma ITIL et un schéma DevOps. Donc de notre point de vue, DevOps est parfaitement compatible avec ITIL et il apporte même une certaine complémentarité. Si on regarde le schéma, en fait, on peut assez facilement voir un parallèle entre service design et customer experience, entre service opération et opérationnel excellence, service transition, continuous delivery. Le tout sous couvert d'amélioration continue qui entoure le tout. En fait, pour nous, ITIL, c'est un framework qui va apporter la rigueur suffisante pour industrialiser de manière sécurisée et réaliste mes processus de production. On va s'appuyer sur les principes existants avant d'envisager une accélération dans le cadre d'une démarche DevOps. ITIL, ça va amener la fiabilité, la stabilité, la résilience, la sécurité nécessaire qui va permettre de mettre en place justement de manière fiable cette cross-collaboration entre les équipes et d'envisager sainement une accélération. En revanche, ce qui va peut-être se passer dans une organisation DevOps, c'est qu'on ne va pas forcément chercher à appliquer l'intégralité du référentiel ITIL, qui peut parfois être un peu pompeux, je ne sais pas si vous le connaissez. On va essayer de rester plutôt dans une philosophie just enough process, et dans notre cas, just enough ITIL. Maintenant, quelques mots sur l'évolution du rôle d'Ops dans une démarche DevOps. Pour nous, les Ops, ce sont ceux qui vont permettre l'autonomie et le libre service sans remettre en cause les principes de contrôle et de sécurité du SI. Comme Antoine l'a présenté dans la session précédente, on voit que les développeurs vont avoir de plus en plus de droits. Ils vont potentiellement pouvoir créer dans des environnements, avoir des droits quasi administrateurs sur des environnements de production. Il faut que tout ça soit maîtrisé. Et ça fait partie du nouveau rôle des Ops, de mettre en place ces accès, tout en restant compliant avec ce qui est en place dans le SI. La deuxième chose, c'est de passer de la simple exécution de tâches récurrentes, de type je provisionne un environnement, je fais ma mise en prod, à la conception de nouveaux processus automatisés. Donc ils vont vraiment devenir un petit peu architecte de ces usines logicielles qui sont en grande partie automatisées et vraiment être partie prenante à ça. Conséquence de ça, ce sera aussi les Ops qui seront responsables d'orchestrer les différents mécanismes d'automatisation. Et quand je dis orchestrer, il y a aussi surveiller, donc il y a toute la partie monitoring qui va avec. Sans oublier quelque chose dont on a beaucoup parlé ce matin, cette fameuse remontée continue d'informations. qui peut se faire via de la supervision ou via de la télémétrie si je m'intéresse à de la remontée d'informations sur mes applications. Et pour conclure, je dirais qu'en fait, les ops vont passer de personnes qui sont bonnes techniquement à trouver et à résoudre des problèmes à des sortes de docteurs qui vont prescrire des améliorations pour servir la chaîne de valeur et donc les besoins business. Voilà. Donc je vais maintenant passer le micro à Pascal, qui va vous parler d'infrastructure et socle technologique, qui sont en fait les clés de cette relation de confiance et de cette fiabilisation.
Merci Antoine. Donc ce que je vais présenter en fait rentre un petit peu dans le détail de la dernière slide d'Antoine là, qui vient de vous présenter. Je parle également du fait que c'est un passage de ce qu'on connaît bien quand on parle avec des prods. Je sais pas, il y a peut-être dans la salle des gens qui font de la prod. Ce discours, on ne touche pas à la prod. Tant que ça marche, on ne reboot pas, on évite de toucher quoi que ce soit au serveur de prod. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, notamment quand j'essayais de convaincre des clients de mettre des patchs de sécurité tous les mois sur les serveurs de prod. On me disait non, on ne reboot pas les serveurs de prod. Donc on va essayer de passer de ça à... j'ai confiance dans les process automatiques que j'ai mis en place. C'est-à-dire ce sont les prods, les opérationnels eux-mêmes qui vont mettre en place des processus automatiques, donc ils vont maîtriser parce qu'ils les auront conçus eux-mêmes, pour arriver à ces opérations continues, tout ce qui est continuous quelque chose, continuous delivery, etc., dont on parle avec DevOps. De façon à ce que les ops aient confiance dans le fait que, dont on parlait juste à l'instant d'ailleurs, que les développeurs vont mettre eux-mêmes des choses en production. C'est quelque chose qui va hérisser le poil des ops. Sauf si c'est eux-mêmes qui ont mis en place les processus qui vont bien. Pour mettre en place ces processus qui vont bien, il va s'agir de mettre en place un genre de catalogue de services. Pour pouvoir dire, par exemple, aux devs, ben voilà un service que tu vas pouvoir utiliser, c'est déployer un nouvel environnement de dev test. Mettre en place un processus automatisé de release, de déploiement, de fonctionnalités, etc., etc. Donc tout ça, ça va supposer de mettre en place de l'automatisation, de tout automatiser toute la chaîne de toutes les actions qu'on va pouvoir faire sur la prod, de mettre en place de la délégation. Quand le développeur dit ben, j'ai tous les droits, j'ai le droit de faire tout ce dont j'ai besoin sur la prod, en fait, derrière, c'est parce que les opérations ont mis en place la bonne délégation qui va bien. Pour leur donner juste le droit qui va bien sur telle ou telle fonctionnalité, tel aspect du système, pour lui donner l'impression qu'il a le droit de tout faire. En fait, il a le droit de faire ce qu'il a besoin de faire. Et éventuellement, si on est dans un environnement de type cloud, par exemple, où on va payer les ressources, ben mettre en place des quotas de ressources pour que, par exemple, quand on déploie des environnements de dev test sur Azure, ben on ne paye pas parce qu'on a oublié d'arrêter les environnements des dev tests quand on n'a plus besoin. Donc mettre en place des quotas, mettre en place des process automatisés qui vont arrêter les ressources, etc. Ce genre de choses-là. Donc fournir des scripts, fournir des configurations, fournir des points de supervision, etc. de façon à obtenir la confiance des ops en l'infrastructure, dans sa capacité à répondre de manière fiable, sécurisée, contrôlée. Vous remarquez qu'on retrouve les mêmes mots qu'utilisait Antoine juste précédemment. Quand ITIL, pour obtenir ses objectifs de fiabilité, sécurité, contrôle, etc., mettait en place des contrôles et des procédures, DevOps va mettre en place de l'automatisation pour amener cette confiance dans l'infra vis-à-vis des ops. Donc, exemple de choses qu'on va automatiser, la notion d'infrastructure agile. La première chose dont on parle, c'est l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est très intéressant, c'est une notion assez récente qui consiste à dire, bon, on veut mettre en place de l'infrastructure agile, donc on veut pouvoir répéter toutes les opérations qu'on a à faire sur les infrastructures, pardon, si on utilisait les méthodes bien connues et bien maîtrisées par les développeurs pour notre infrastructure, à savoir le versionning, la gestion de sources, etc., etc. Finalement, une infrastructure, c'est quoi ? C'est un script de mise en place d'une infrastructure. Avec les technologies actuelles, il suffit de considérer l'infrastructure comme du code, exactement avec le même esprit qu'un développeur, d'utiliser des langages de script, des langages de description de configuration, et gérer tout ça dans des outils bien connus des développeurs, qui sont des outils de gestion de source, de versionning, etc. On veut pouvoir de la sorte associer le dev et l'infra dans les dépôts de code, dans le sens où, dans un même dépôt de code, un GitHub ou quelque chose comme ça, notre ami GitHub qui est ici, là, on va pouvoir stocker au même endroit le code de l'application, mais également le code de l'infrastructure. Je pense par exemple au code JSON de Azure Resource Manager pour définir les infras qu'on va déployer dans Azure, ou au Dockerfile s'il s'agit de définir des containers Docker, ce genre de choses-là. De cette façon, on va pouvoir revenir en arrière, par exemple, pour dire, bah, tiens, il y avait un bug sur la version 1.5 de l'appli, je pourrais remettre en place très rapidement une infra correspondant à la version de l'appli que je veux retester, etc., en même version. Tout ceci, évidemment, on va vouloir l'orchestrer pour non pas gérer des scripts très ponctuels, très petits, mais plus ambitieux avec de l'orchestration. Rien de nouveau dans tout ça. Le cloud, c'est quelque chose qui va servir à DevOps et réciproquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, c'est deux phénomènes concomitants qui se nourrissent l'un l'autre. Le cloud et tout ce qui est automatisation de la virtualisation, hein, en gros, si on veut résumer le cloud, c'est ça. Et DevOps qui va également pousser l'automatisation. Donc il se trouve que dans Azure, on a un avantage pas mal sur les autres, c'est qu'on a exactement la même chose dans le cloud public, dans Azure, et puis avec Azure Stack qui arrive bientôt, incessamment, on aura exactement la même chose que dans Azure. Exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en place des infras de type IaaS ou PaaS, infrastructure Azure Service ou plateforme Azure Service, avec le même code d'infrastructure. Les mêmes scripts ARM, les mêmes scripts JSON vont pouvoir déployer nos infras, que ce soit dans le cloud privé ou dans le cloud public, et ça c'est un gros avantage pour des process de type DevOps. Autre exemple de procédé à automatiser, les provisionnements et les déploiements. Le provisionnement, ça consiste à développer des éléments d'infrastructure bas niveau. Alors on pense à la virtualisation, les machines virtuelles, les ressources de base des machines virtuelles, le CPU, la mémoire, le stockage, etc., mais également le réseau. Le réseau grâce aux technologies de type SDN, Software Defined Networking, qui vont nous permettre de virtualiser le réseau. On va trouver ça dans Azure, on va trouver ça dans Windows Server, etc. Le cloud, j'en ai dit deux mots. On peut aller également jusqu'au cluster de serveurs de containers, puisque c'est quelque chose qui est très utilisé de nos jours, avec Docker Machine pour rester au niveau très élémentaire, mais également Docker Swarm et Mesos et ce genre d'outils, dont DCOS, dont on a annoncé récemment qu'on allait mettre en place la version open source de DCOS dans Azure, puisque Microsoft fait partie du projet DCOS open source. Une fois qu'on a mis en place avec du provisionnement des infrastructures, des machines virtuelles, des clusters, etc., il va falloir dessus déployer des fonctionnalités, du middleware, des applications, etc., etc. Et on va pour ce faire utiliser des technologies comme des gestionnaires de packages pour automatiser la récupération de packages pour les installer. Alors il y a des choses qui existent dans le domaine public, dans l'open source comme apt, apt-get, etc. Côté Microsoft, on a la PowerShell Gallery qui utilise des choses open source comme Chocolatine, Nuget, etc. On va pouvoir, donc Docker, j'en ai parlé également. Tout à l'heure, j'ai vaguement parlé des configurations déclaratives. Des choses comme PowerShell DSC, Chef, Puppet, Ansible, Salt, etc. Ce sont toute une gamme d'outils qui permettent de faire de l'infrastructure as code de façon déclarative. C'est-à-dire qu'on va déclarer, voilà, sur mon serveur, je veux qu'il y ait le serveur IIS, les fichiers de l'application à tel endroit, tel middleware, tel composant, etc., etc. Quel que soit l'état initial de ma machine, j'aurai la garantie que mon état final sera conforme à ma configuration désirée. C'est ça le Desired State Configuration du DSC. Idem avec tous ces outils de gestion de configuration qui font la même chose. Et puis, n'oublions pas les tests automatisés avec des choses comme Pester pour tester automatiquement les scripts PowerShell. Pester qui est inclus dans les dernières versions de Windows Server 2016. Ensuite, autre chose, l'optimisation des ressources. L'optimisation de ressources, je vais passer rapidement, il s'agit de dire, je vais mettre des ressources, par exemple, dans un cloud public qui me coûte de l'argent. Il va falloir un petit peu optimiser ce que je vais utiliser comme ressources pour pas que ça me coûte des fortunes, pour maîtriser un petit peu. Donc l'autoscale pour faire du scale-up ou scale-down en fonction des besoins, de la haute dispo, des sauvegardes et restaurations avec Azure Site Recovery, des choses qui sont connues, par exemple, dans Azure. Idem au niveau de la supervision, on a besoin d'aller regarder les journaux d'événements en fonction des OS qu'on va exécuter, les traces système, donc pareil, ça va dépendre des OS, mais le principe là-dedans est de centraliser des logs, d'alimenter des logs, de les centraliser et puis de les analyser. Et au niveau des analyses, on pense à des outils comme OMS, Azure Operation Management Suite, et puis tout ce qui est télémétrie. Donc nos amis développeurs vont utiliser des techniques de télémétrie dans leurs applications qui vont remonter des logs qu'on va centraliser par exemple avec OMS. Pour résumer cette partie, on a un écosystème d'outils qui est très riche. On peut envisager un écosystème entièrement Microsoft avec les outils dont il est question ici, avec Visual Studio Team Services comme un petit peu le centre de tout ce qui va orchestrer l'ensemble de ces process-là. Mais évidemment, le monde n'est pas homogène, n'est pas forcément 100% Microsoft. Depuis notre Visual Studio Team Services, comme la démo va être faite tout à l'heure avec Julien en fin de matinée, on pourra avoir des process de build, par exemple, qui vont utiliser des outils non Microsoft, des Gradle, des Gulp, des Grunt, des onomatopées de ce genre-là, et d'autres outils comme la génération de containers Docker que nous montrera tout à l'heure Julien. Et puis, je ne me suis pas beaucoup étendu sur l'aspect test automatisé des procédés liés à DevOps, mais Antoine va nous en dire deux mots tout de suite.
Donc je vais faire la transition avec ce que nous raconte Pascal. Je vous ai dessiné un petit schéma sympathique. Je vois des gens qui sourient, ça rappelle peut-être un peu des souvenirs à certains. Donc j'ai dessiné un dev qui envoie sympathiquement une petite bombe à un ops. J'aurais pu complètement dessiner la même chose avec un ops qui envoie ça à ses testeurs ou qui envoie ça directement en production. Donc c'est évidemment une situation qui est parfois malheureusement répandue et qu'on va essayer au maximum d'éviter dans une démarche DevOps. Ce qui va permettre de mettre des barrières à tout ça, à créer de la confiance et à construire une belle relation, c'est principalement d'avoir une stratégie de test en fait. Donc quand on parle de test, il y a toute une panoplie de tests. Alors on peut les regrouper en trois familles, tests fonctionnels avec acceptation, intégration, non-régression fonctionnelle, tests techniques, unitaires, sécurité, charge, performance, non-régression technique, tests d'interface, IHM, navigation, exploratoire. Il y a aussi d'autres types de tests dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui sont les tests en prod, l'AB testing. Voilà, on a tout un tas de tests. La subtilité là-dedans, ça consiste à essayer de trouver en fait de quel type de test j'ai vraiment besoin, à quel moment je vais les jouer et de quelle manière je vais pouvoir les automatiser pour faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop de temps et qu'ils me permettent ma fameuse accélération qui est toujours mon objectif final. Donc je vais vous présenter maintenant une stratégie de test qui concerne le build. Voilà, donc imaginons que j'ai mes équipes de développement qui sont là, qui passent leur journée à développer du code source. À la fin de leur journée, quand ils ont fini, ils vont committer ce source dans un repository, un gestionnaire de code qui va permettre de versionner, de sauvegarder tout ça. Mon mécanisme de build se lance pendant la nuit. On a du polling, c'est-à-dire que le build va venir chercher directement dans le repository quel est le code source qui est candidat à être buildé. Et à côté de ça, je vais avoir une série de tests qui va être automatisée. Donc on peut peut-être imaginer par exemple que je vais jouer l'intégralité de mes tests unitaires plus une série de tests de non-régression, pour être sûr que mon build est cohérent. Il va y avoir deux possibilités. Soit mon build a échoué, et à ce moment-là, il y a automatiquement une notification qui va partir au développeur en lui disant « Cher développeur, le code que vous m'avez envoyé cette nuit n'a pas passé la série de tests, merci de revoir votre copie. » Ou de manière plus agressive, comme pouvait arriver par exemple par SMS en pleine nuit pour le réveiller en lui disant qu'il y a un problème sur son build. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il soit notifié. À partir du moment où ça a fonctionné, donc mon build est construit, je vais pouvoir passer la main à mes équipes d'assurance qualité et test qui vont, eux, jouer les quatre tests qui ont été décrits en amont dans mes spécifications. Si le quatre tests ne passe pas, ils vont simplement notifier le développeur qui va, de la même manière, revoir sa copie, redévelopper du source et ça partira au build de la nuit suivante. À partir du moment où mes tests sont passés, je vais pouvoir entrer dans ma chaîne de release qui va pouvoir m'amener vers une mise en production et finalement mon utilisateur final. Je vous ai fait une petite illustration pour vous montrer ce qu'on peut avoir le matin. Alors voilà, imaginons que j'ai un build nocturne chaque nuit, je reçois une sorte de dashboard qui va permettre à l'intégralité de mes équipes, parce que la bonne pratique, c'est de mettre à disposition ces dashboards de l'intégralité de mes équipes pour voir quels sont le pourcentage de tests qui a réussi et qui a échoué dans mon build et potentiellement de quel type. Là, on voit que c'est de la régression, là c'est des nouveaux problèmes et puis il y en a une vingtaine qui est passée. Voilà, donc je vous ai montré rapidement ce qu'il était possible de faire avec du build. Donc dans le schéma précédent, on était en mode continuous build. On pourrait en fait tout à fait reprendre les mêmes principes pour aller plus loin et pousser en fait cette stratégie d'automatisation pour faire de l'intégration continue, du continuous delivery, donc aller jusqu'à la release, voire même du continuous deployment, comme Antoine nous présentait tout à l'heure sur le Groove Music. Donc ce qui permet d'avancer de la manière la plus continuous, si j'ose dire, ça va être la mise en place de mécanismes de test automatique, parce que ce sont vraiment les garde-fous en fait, entre les différentes étapes, et parallèlement à ça, des mécanismes de release automatique qui vont s'occuper en parallèle de faire du provisioning, de la copie de données, de la compilation, et toutes les étapes qui sont nécessaires pour en fait, aller toujours plus loin dans ce process. Pour conclure, je voudrais juste vous dire en deux mots que Microsoft vous accompagne ou peut vous accompagner, que ce soit pour la définition d'une stratégie pour aller vers du DevOps, dans tout ce qui est team organisation avec les différents schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, dans des démos plus techniques pour la prise en main de Visual Studio et notamment la partie Team Services qui permet vraiment une application concrète de tout ce qui est DevOps. Sur la partie Release Management, et bien évidemment sur la partie test stratégie en automation. On est à la fin de la présentation, on va prendre peut-être une ou deux questions si on a encore du temps. Une ou deux questions.
Est-ce que vous avez des questions très rapidement, sinon après il y aura la pause si vous voulez échanger avec les différents speakers. Alors une question.
J'ai entendu parler de GitHub tout à l'heure. Quel avenir vous lui donnez au sein de Microsoft ?
Je vais laisser Pascal qui est plus avenir de GitHub chez Microsoft.
J'ai pas de réponse à cette question. Ah, peut-être Julien.
Julien, tu vas nous donner.
Question piège. Alors juste pour être sûr de bien comprendre la question, c'est quel avenir au niveau Microsoft ? C'est par rapport au Team Fund, par rapport à TFS ? Donc en fait, il n'y a pas une stratégie d'abandonner TFS et le contrôle de code source TFS. Ça, clairement, on n'a jamais dit ça et il n'y a pour l'instant aucune chance que ce soit le cas. L'idée, c'est vraiment de dire, venez avec les outils que vous utilisez. On le verra tout à l'heure dans la démonstration que je ferai. Il y a beaucoup de gens qui utilisent déjà GitHub, qui utilisent des Bitbucket et autres. C'est des choses aujourd'hui qu'on peut venir interconnecter avec des outils comme Visual Studio Team Service, tout simplement pour rajouter des fonctionnalités d'automatisation, de build, d'intégration continue, de déploiement continu, etc. Donc voilà, c'est juste de dire, aujourd'hui on a un partenariat avec GitHub, que ce soit la partie publique ou la partie GitHub Entreprise qui vient aussi s'insérer dans Visual Studio, l'outil de développement. Et donc voilà, c'est juste un outil en plus, une corde de plus à l'arc pour les développeurs et les ops.